Qui a vu la gloire de Dieu? Qui ici? Qui a vu la gloire de Dieu? Dans ma vie, je vois la main de Dieu dans de nombreuses choses. Je vois Dieu intervenir régulièrement pour m'aider et pour aider les membres de ma famille, les membres dans l'Église de Dieu, que ce soit ici ou dans le monde entier. Je vois Dieu nous enseigner. Je vois Dieu nous guider et nous inspirer par la puissance de son esprit. Dieu accomplit une œuvre à travers son Église. Et c'est très encourageant. C'est vraiment encourageant. Ça fait partie de la gloire que nous avons la possibilité d'observer de Dieu. Au psaume 19, David a considéré les cieux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez de ce passage au psaume? Psaume 19, c'est vraiment un psaume qui, pour moi, ces paroles, ces propos ici de David sont tellement profonds. Ces réflexions, des fois, je pense que c'est quelqu'un qui méditait beaucoup, qui était vraiment capable de... C'est peut-être pas Salomon dans sa sagesse, mais ses méditations sont tellement révélateurs, les méditations de David. Et au psaume 19, il commence avec une réflexion, avec une observation, avec une méditation pour nous aussi, pour réfléchir ou pour réfléchir sur la gloire de Dieu. Au verset 1, au chef des chantres, psaume de David, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Pour moi, en automne ou des fois en hiver, et c'est déjà prouvé qu'en hiver, l'observation des étoiles est beaucoup améliorée parce que l'air froid est moins humide et ça veut dire que l'image, la lumière traverse les cieux sans interruption. Et même les observatoires avec des gros télescopes, comme dans le canton de l'Est, ils font beaucoup de recherches en hiver et ils ont envie de garder tous leurs équipements froids parce que ça permet une meilleure image. Et donc pour moi, quand j'observe les étoiles en automne ou en hiver, on a aussi de différentes étoiles à cause du changement des saisons. Et pour moi, c'est quand même très intéressant de contempler la gloire de Dieu. En ce moment, il n'y a pas longtemps, Mme Arthur et moi, nous nous sommes mis à l'extérieur pendant une soirée bien claire et nous avons vu des étoiles filantes. Et nous avons vu vraiment des choses de vue, des planètes et des étoiles dans les cieux. David ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas juste en disant « Oh, c'est très beau, c'est très joli ». Il a connecté, si vous voulez, les points en disant « Voilà, ces choses magnifiques qui me dépassent tellement, c'est ça qui révèle la gloire de Dieu. Vis-à-vis de l'homme, moi je suis tellement petit. » Et Dieu est tellement grand. Sa gloire est tellement magnifique. Et donc, dans ces observations, nous voyons quand même une pensée vraiment profonde vis-à-vis de quelqu'un qui observe les étoiles. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les nations qui entouraient Israël allaient vénérer les corps célestes comme les dieux. Mais David savait que les vastes cieux proclamaient les merveilles de notre Dieu créateur. Au lieu de louer la création, David nous réoriente pour louer notre créateur, celui qui est derrière, celui qui a créé toutes ces choses. Parce que la création, c'est une façon de révéler sa gloire à nous, les tout petits, les hommes. Donc ces nombreuses nuits passées en plein air, on peut imaginer qu'il était sur un balcon ou sur le toit de sa maison. Et on peut imaginer qu'il vit ils passaient ces moments-là, ou même quand ils s'occupaient des moutons, voilà, ils passaient du temps dans les champs aussi. Donc David avait peut-être du temps, et il avait peut-être pris un réflexe, une habitude, à souvent méditer l'univers tellement impressionnant. J'imagine que quand il avait tellement de choses à régler dans son royaume, que le fait de se passer un moment intime avec Dieu à l'extérieur, coupé de tout ce qui passait autour, c'était pour lui une sorte de renforce de son esprit. Dans les versets 3 à 6, David poursuit ce thème en se concentrant sur le plus impressionnant des corps célestes, le soleil. Un peu plus loin, verset 3, « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Donc c'est tellement poétique, les paroles de David ici. Mais encore une fois, il nous oriente vers le créateur de toutes ces choses. Donc, les paroles de David ici peuvent nous rappeler de considérer les profondeurs, la puissance, la gloire de Dieu. Les choses que Dieu permet à nos yeux de voir sont précieuses. Les choses que Dieu nous permet d'entendre sont précieuses, de sentir, de ressentir. Les choses que Dieu nous enseigne chaque jour de cette vie physique avec lui sont précieuses. Toutes ces choses sont des moyens par lesquels Dieu se révèle à nous. Dieu révèle sa gloire à nous. Donc alors, encore une fois, qui a vu la gloire de Dieu? OK. Afin d'introduire ce sujet, je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Parce qu'il y a une autre façon que Dieu se révèle. Et je pense que c'est mieux de commencer avec cette anecdote, cette histoire personnelle, ce récit personnel. Pendant de nombreuses années, ma femme et moi, nous avons aidé à coordonner la fête des tabernacles en France. En 2017, après avoir passé la fête des tabernacles dans le nord de la France, ma famille a été confrontée à une crise. Pendant la fête, nous venions d'imaginer les 1000 ans de paix sous le règne de Jésus-Christ, ainsi que la leçon du dernier grand jour et la bonne nouvelle de l'accomplissement de son plan de salut pour toute l'humanité. Personne n'était exclu. Donc nous avions vraiment pu observer et méditer ces leçons. Mais tout au long de la fête, plusieurs membres de l'Église, de la congrégation à la fête, tombaient très malades à cause de la grippe. En fait, elle s'est propagée à tous les membres de notre famille, l'un après l'autre, sauf moi. Cela a commencé par Charité, puis Faith, et puis Cindy, et finalement notre bébé à ce stade-là, notre bébé de 8 mois, William. Il est tombé malade. Nous savions alors que c'était la grippe, parce que c'est la même chose que tout le monde avait, mais notre fils n'était qu'un petit bébé. C'est pas la même chose. Le lendemain du dernier grand jour, nous avons commencé le long voyage de retour pour rentrer chez nous, en passant par Londres, parce qu'on était vraiment sur la Manche, à côté de l'Angleterre, et on allait passer par Londres pour prendre un vol dans quelques jours après. Puis quelque chose de terrible est arrivé. Après avoir pris le train Eurostar sous la Manche, et nous être installés dans notre chambre d'hôtel, l'état de William a empiré. Sa fièvre a provoqué une crise fébrile, et nous avons eu très peur. On l'entendait, ses poumons. C'était pas bon. Alors que ma femme essayait de faire baisser la température corporelle de William, j'ai décroché le téléphone de notre hôtel et j'ai appelé à la réception pour demander de l'aide. Je leur ai demandé d'appeler une ambulance pour moi car je ne savais pas comment le faire en Angleterre. Est-ce que vous connaissez les chiffres? Moi, je ne savais pas. C'est 9, 9, 9 là-bas. 3 fois 9. Donc, j'avais même pas cette information à ce moment-là. Mais en peu de temps, je tenais William dans mes bras, dans une ambulance, pour aller à l'hôpital. Ma femme est restée à l'hôtel avec nos tout petites filles à l'époque. Elles ont beaucoup grandi depuis 2017. Après avoir évalué l'état de William à l'hôpital, les médecins des urgences, aux urgences ont décidé de l'intuber. Et nous allions passer les jours suivants dans les soins intensifs pour les tout-petits, les pédiatriques. Donc, en fin de compte, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une très mauvaise réaction à la grippe A. À la grippe A. Une grippe très forte cette année-là. Mais pendant ces jours difficiles, ce qui s'est passé pour révéler la gloire de Dieu, c'est que nous avons vu à plusieurs reprises l'intervention de Dieu. Par l'intermédiaire de notre famille autour de nous aux États-Unis et par l'intermédiaire des frères et sœurs, ceux qui étaient à la fête avec nous, il y en avait quelqu'un qui était à Londres et qui nous ont beaucoup aidés. Et puis par l'intermédiaire de personnes que nous ne connaissions pas, des étrangers, des personnes inconnues pour nous. Nous avons vu la main de Dieu dans toutes ces choses et nous sommes si reconnaissants, même aujourd'hui, à Dieu de nous montrer à jusqu'à quel point il prend soin de nous et les nombreuses façons par lesquelles cette attention et cet amour de Dieu peuvent être exprimés. Donc en voyant et en apprenant toutes ces façons dont Dieu nous a aidés, j'ai compris et j'ai été fasciné par la façon dont il a travaillé à travers les gens qui nous entouraient. Encore une fois, les femmes, la famille, les amis, le ministère de l'Église, les frères et sœurs de l'Église, même le personnel à l'hôpital, même, encore une fois, des personnes inconnues. Dieu était avec nous. Il y avait même quelqu'un qui était à l'hôpital. On avait besoin d'aller faire les papiers avec un avocat à côté, avec un notaire, parce qu'il fallait faire des papiers pour que nos enfants rentrent avec les membres de l'Église, parce qu'on passait plusieurs jours là-bas et on ne pouvait pas gérer nos deux petites filles avec nous à cet âge-là et s'occuper de rien. Donc, il fallait faire un notaire pour qu'elle rentre aux États-Unis pour être avec ma famille. Et le jour que j'avais vraiment besoin de me rendre chez le notaire, on est descendu à la sécurité, à l'entrée de l'hôpital. Il y avait une personne, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un nous amène ici, c'est très loin, et ça coûterait des centaines de dollars pour y aller dans un taxi. Et puis cette personne qui était derrière s'est présentée, un inconnu, elle a dit, « Hey, permette-moi de partir avec eux, je vais les rendre avec mon véhicule. Je vais leur rendre chez les notaires avec mon véhicule personnel. Je vais prendre un break. » Donc, cette personne, non pas seulement elle est allée à une heure là où on était à Londres pour nous conduire, il attendait après, il attendait sur place que chez le notaire en soit terminé, et il attendait, il nous a ramenés à l'hôpital après. Ça a coûté des centaines de dollars avec un taxi. Et après, il a dit à la fin, « Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel. » Je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans l'église ici avec le nom, mais pour ce jour-là, le nom d'Emmanuel était intéressant pour nous. Dieu avec nous, c'est ça l'idée. Dieu était avec nous. Donc, voilà, il nous aidait. Il nous aidait, les frères et sœurs, tout le monde. Ils nous ont envoyé des encouragements, ils nous ont guidés. On a commencé un GoFundMe aussi aux États-Unis pour que les billets d'avion soient changés, des choses comme ça, avec une flexibilité, parce qu'on avait des nuits d'hôtel imprévues, beaucoup de choses de coûts imprévus. Et tout le monde s'est engagé dans ce gros effort de nous aider. On était bien entourés, par plusieurs manières, par plusieurs frères et sœurs, de plusieurs endroits. Donc, de cette manière, nous sommes probablement tous ici d'accord pour dire que nous avons pu voir ou au moins sentir la gloire de Dieu. Parce que je sais que nous ne sommes pas les seuls d'avoir vécu des moments comme ça. Vous aussi, vous en avez vécu aussi. Je vous invite à considérer 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Paul explique comment la souffrance en Christ nous rapproche de la compréhension de la gloire de Dieu. Et je répète encore, la souffrance en Christ, pas juste la souffrance de n'importe quelle manière, mais la souffrance dans la foi. La souffrance qui est dans la foi. C'est ça qui change tout, n'est-ce pas, frère et sœur? Quand on souffre, si on n'a pas d'espoir, on n'a pas le même résultat que si on souffre dans la foi en Christ. Dans la compréhension que c'est Dieu qui nous entoure, que c'est Dieu qui nous aide, que Dieu s'occupe de nous. Ça change tout. Ça change tout. Ça nous permet des fois de surmonter des choses que nous n'aurions pas la force de faire dans la vie. Considérons 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 6. Verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est très dense, ce verset. C'est très compliqué, c'est très profond, ce verset, n'est-ce pas? Paul fait le lien ici entre la lumière, entre la gloire, entre la connaissance. Et en fait, il le dit dans une expression, la connaissance de la gloire de Dieu. Resplendir comme la lumière. Tout est lié dans cette expression. C'est intéressant parce que ça me fait penser aussi à Jean chapitre 1. C'est intéressant que ces expressions se retrouvent aussi. Et en particulier le verset 14 de Jean 1, mais on ne va pas y revenir. Mais Paul fait le lien entre toutes ces choses, pour une raison. Il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance. La connaissance de la gloire de Dieu, c'est un trésor, frères et sœurs. C'est quelque chose à valoriser, à apprécier, qui nous rend tellement remerciants. On est tellement content et joyeux de connaître sa gloire. Continuons au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Donc c'est Dieu qui garde la gloire. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu cette connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et c'est un trésor éternel que nous gardons en nous, dans cette vase de terre, dans cette chose corporelle qui va un jour disparaître. Nous avons déjà reçu quelque chose d'éternel, quelque chose qui va au-delà de ce monde physique. C'est incroyable. C'est un trésor. C'est le trésor éternel. Nous gardons. C'est un trésor qui nous donne de la force dans l'adversité. C'est ça qui est vraiment un trésor. C'est quelque chose qui nous donne de la force face à l'adversité. Continuons au verset 8 maintenant. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Comment est-ce que ça va se passer? La vie de Jésus va être manifestée dans notre corps. Il y a quelque chose qui va au-delà de simple méditation, de simple pensée. Ça va au-delà. Lorsque la vie de Jésus-Christ est manifestée dans notre corps, nous reflétons la gloire de Dieu. Ça change tout, n'est-ce pas? Comme nous sommes toujours humains, certains jours sont meilleurs que d'autres, honnêtement, n'est-ce pas? Hein? Je peux briller un peu plus un jour que l'autre. Ma femme est témoin de ça. Mais si nous considérons cette possibilité, l'importance de refléter la gloire de Dieu, c'est quand même une opportunité majeure pour nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous sommes capables de refléter la gloire de Dieu dans nos actions, dans nos conversations, dans notre comportement, les uns envers les autres, en particulier envers les étrangers, ceux qui ne sont pas de nous. Nous sommes capables de faire ceci. Continuons avec le verset 12. Ainsi donc, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Y a-t-il un moment où notre foi est plus évidente que dans la manière dont nous affrontons la mort? Est-ce qu'il y a un moment plus évidente. Surtout la possibilité de la mort d'un enfant ou par la persécution, mais aussi par la vieillesse et les souffrances des maladies normales, entre guillemets, les choses qui viennent avec la vie. Mais ce sont des moments où notre foi est capable de briller, de nous ancrer, de nous permettre de traverser le mal et la difficulté. Dieu nous donne cette gloire en nous. C'est comme si quand Paul a décrit ces vases de terre, de temps en temps, moi j'ai déjà pensé au fait que si on a essayé d'écraser, de casser cette vase de terre, c'est comme si ce trésor en nous nous permet de ne pas être écrasé. Même si l'adversaire essaye de le faire, de jeter par terre, de le concasser, hein? Il fait tout ce qu'il peut, n'est-ce pas, des fois. Mais c'est comme si le trésor en nous nous permet de résister à ces choses, pour être très imagé. Mais c'est une vérité que nous vivons quand nous passons par des épreuves, dans la foi en Jésus-Christ. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Et ceci est le verset suivant, sont très importants. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Intéressant, l'un produit l'autre. C'est une réaction en chaîne qui se passe, n'est-ce pas? Dieu commence avec nous et notre réponse nous permet aussi de multiplier, comme la parabole du semeur, de multiplier, comme la parabole des serviteurs et l'argent qu'il a laissé. L'idée, c'est de multiplier ce que Dieu nous donne. Est-ce que vous faites de la multiplication? C'est une croissance exponentielle, si vous le faites. C'est une croissance exponentielle. C'est au-delà de la croissance linéaire, n'est-ce pas? La multiplication, c'est une croissance exponentielle. C'est une forte croissance. Ça démontre le pouvoir, la puissance qui est en nous par l'Esprit de Dieu. C'est un don de Dieu de recevoir cette puissance. C'est un talent, c'est un trésor, c'est quelque chose qui vaut beaucoup, plus que l'argent dans ce monde. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quand nous affrontons des épreuves, nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car de nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel, encore une fois ce mot, éternel, de gloire. Il y a de la gloire qui se produit en nous, frères et sœurs. Verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Ici, au verset 17, 18, Paul place l'affection d'un côté, si vous voulez, de la balance. C'est comme ça que j'observe. C'est, si vous voulez, des légères afflictions de l'un côté de la balance produisent beaucoup de gloire sur l'autre côté de la balance. Okay? Pour chaque once, si vous voulez, d'affliction de l'un côté, on a une quantité de gloire qui est multipliée de l'autre côté. Et lequel va gagner? C'est la gloire qui va gagner, n'est-ce pas? C'est le côté de la gloire qui va gagner. Mais le fait de passer par ces afflictions-là permet que cette gloire multiplie. Parce qu'on devient quand même reconnaissant envers Dieu pour cette intervention lors de nos souffrances. Donc voilà, les afflictions, les épreuves ne sont pas inutiles. Même si on préférait des fois les éviter, n'est-ce pas? On n'est pas censé de simplement chercher à nous mettre, à nous fouiller dans les épreuves, mais on est censé, quand l'épreuve nous arrive, de l'affronter dans la foi en Christ. Comme nous le savons, la Bible contient plusieurs exemples de moments où Dieu a révélé sa gloire de diverses manières. On a parlé la semaine dernière du fait que Moïse, dans le désert, a été appelé par l'Éternel. Il a même dit, on n'a pas cité ça, mais il a dit, « Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. » Il voulait l'observer. Beaucoup plus tard, lorsque la nation d'Israël fut fermement établie dans la terre promise, avec la capitale à Jérusalem, il y avait la dédicace du temple de Salomon. Considérant 2 Chroniques, chapitre 5. Dédication du temple, c'était un moment phare dans la vie, dans l'histoire de la nation d'Israël. Vraiment un grand événement qui s'est produit. Des fois, c'est comme Dieu dans notre vie personnelle. Des fois, nous ressentons une bénédiction, une sorte de confirmation de sa présence avec nous lorsque nous souffrons ou lorsque nous voyons derrière nous une épreuve que nous avons réussi à surmonter. C'est comme si des fois Dieu se révèle sa gloire pour dire, voilà, je t'ai donné la force de passer par là, de surmonter cette épreuve. C'est comme mon beau-père me dit, quand je fais la course à pied, ça, c'est pas bien, c'est quelque chose que j'aime, mais quand c'est fini, c'est ça que j'aime. C'est l'effort qui est difficile, mais ça produit un bon résultat. 2 Chroniques, chapitre 5, et le verset 13. Lorsque l'arche de l'Alliance a été déplacée dans le nouveau temple de Salomon, Dieu a montré son approbation en remplissant l'intérieur de son nuage, de sa gloire. Chapitre 5, et le verset 13. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. J'étais en train de louer, de donner des louanges à Dieu. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Remplie de nuées. C'était un miracle. C'était l'évidence de la gloire de Dieu sur place. Beaucoup de témoins ce jour-là. Et ça a été préservé pour nous aussi, pour notre connaissance. Donc, cette gloire de Dieu, de l'Éternel, remplissait la maison de Dieu, le temple dédié par Salomon. Salomon, en étant témoin de ces choses, a fait référence à Lévitique chapitre 16. Alors, on peut garder notre place ici. Lévitique 16 et le verset 2 fait référence à ces choses. Donc, Salomon a vu des choses ici. Lévitique chapitre 16 et le verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère, excusez-moi, 16 et le verset 2, oui. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du bois, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc, c'est ça la référence, c'est que l'Éternel apparaîtrait dans la nuée. Ce n'est pas juste une nuée normale, ce n'est pas juste la fumée, c'était la maison de l'Éternel remplie d'une nuée. Et puis je reviens au chapitre 5 de 2 Chroniques, verset 14 maintenant. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissez la maison de Dieu. Remplissez la maison de Dieu. Donc, ce mot hébreu pour nuage, c'est arafel, qui signifie littéralement l'obscurité des nuages. Et les spécialistes ne sont pas d'accord, mais ce nuage peut avoir été un nuage dense, mais aussi brillant, un blanc éclatant. En accord avec de nombreux autres passages, la vue de la gloire Shekinah de Dieu. Ces passages nous permettent d'essayer d'établir une image mentale de la gloire de Dieu dans une autre façon, dans une façon physique. Mais la gloire de Dieu n'est pas limitée à cette façon. Comme nous avons déjà mentionné, il y a plusieurs voit plusieurs façons, plusieurs méthodes par lesquelles Dieu se révèle à nous. Et quand il se révèle à nous, il se révèle à nous une partie de sa gloire. Donc Jean écrira plus tard, comme je vous ai mentionné, par rapport à Jean 1, 14, que la gloire de Jésus-Christ habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Et puis Pierre aussi, dans 2 Pierre 1, a mentionné que nous sommes témoins oculaires de sa majesté, 2 Pierre 1, verset 16. Donc, dans un sens, même si on n'était pas là à la dédication du temple, nous sommes capables d'observer la gloire de Dieu dans notre vie. Considérons un événement particulier dans le Nouveau Testament, Matthieu 17. Matthieu 17, il y avait juste quelques témoins ici, Pierre, Jacques et Jean, dans Matthieu 17, qui étaient présents pour observer la transfiguration de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 17. C'était un moment de révélateur qui permettait à Dieu de révéler sa gloire à ses disciples. Pas tout le monde, mais dans un sens plus comme Moïse, ceux qui étaient vraiment prêts, ceux qui étaient les plus proches de lui, ont pu observer sa gloire ce jour-là, le jour de la transfiguration. Donc Matthieu 17, versets 1 à 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. N'est-ce pas intéressant que lorsque nous lisons Apocalypse 19, nous voyons que lorsque Jésus-Christ reviendra comme roi des rois, c'est un peu comme ça, tout blanc, la lumière, le visage comme le soleil, c'est comme ça qu'il est prévu de revenir dans la gloire. Il n'est pas venu dans la gloire la première fois. Il est venu dans l'humilité la première fois. Donc nous voyons, il y a des exemples, même dans le Nouveau Testament, où les disciples sont capables d'observer la gloire de Dieu. Mais nous pouvons chercher à observer la gloire de Dieu dans d'autres façons, dans les moments les plus difficiles de notre vie quand Dieu intervient pour nous. Encore une fois, nous voyons des preuves de la gloire de Dieu autour de nous, comme dans les cieux, comme dans la création, toute la nature avec sa complexité, même dans un tout petit bébé, on voit la gloire. C'est incroyable comment un petit bébé va devenir un adulte et va éventuellement aussi devenir un enfant de Dieu glorifié. Tout ça, c'est de la gloire de Dieu, de la poussière jusqu'à la gloire. Un processus que Dieu a créé pour nous, pour les hommes. Et nous, quand même, nous sommes contents, nous sommes remerciants, reconnaissant envers Dieu que nous participons à ce processus dès maintenant. Qu'est-ce que la gloire de Dieu, par exemple? Que signifie la gloire de Dieu? Est-ce que c'est juste des nuages? Le mot gloire en relation avec Dieu a deux aspects. Premièrement, le mot hébreu translittéré kavod ou kavod, traduit principalement par gloire dans l'Ancien Testament, peut faire référence à la louange et à l'honneur, et parfois même à l'abondance et la richesse. C'est ça le mot kavod. Kavod dans l'Ancien Testament. On peut le retrouver dans Genèse 45, dans Ézéchiel 20, si vous prenez les notes pour plus tard. Deuxièmement, ce même mot peut désigner la splendeur éclatante de l'apparence de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Hébreu, dans l'Ancien Hébreu. Et pour la langue grecque, c'est le mot doxa. C'est le mot doxa qui est principalement traduit par gloire dans le Nouveau Testament. Et ceci présente également ces deux aspects. Doxa est traduit par honneur plusieurs fois, par exemple dans Jean 5, et la version du King James, le roi Jacques, le traduit par louange dans Jean chapitre 9 et Jean chapitre 12. Dans plusieurs endroits, nous avons des exemples. Ce n'est pas une étude biblique détaillée sur ce sujet aujourd'hui, mais juste pour que vous sachiez, ce mot gloire se traduit, ce mot doxa se traduit par gloire ou par honneur. Mais doxa peut aussi faire référence à la splendeur éclatante de l'apparence de Dieu. Donc, comme dans Jean 1, comme je vous ai mentionné, chapitre 14, Jésus, qui est maintenant à la main droite de Dieu, possède la gloire qu'il avait avec le Très-Haut lorsqu'il était la parole dans le passé. Donc, c'est cette gloire, le doxa, qui est aussi une splendeur éclatante, tout comme nous avons observé dans Matthieu 17. Et puis, même dans l'avenir très lointain, nous avons un exemple aussi de la gloire de Dieu dans la ville de Jérusalem aussi. Donc, on peut y penser à plusieurs reprises que Dieu ne cache pas pour toujours sa gloire, il révèle sa gloire. Et maintenant, nous avons pris le temps d'examiner ce que la Bible a à dire sur la gloire de Dieu, mais que devons-nous faire de cette connaissance? Si nous allons refléter la gloire de Dieu, si nous allons avoir la splendeur de Dieu dans nos actions, dans ce que nous faisons, alors maintenant que nous avons considéré la gloire de Dieu et la signification du mot gloire, considérons notre part. Notre part, notre rôle dans tout cela. Non seulement la Bible nous enseigne la gloire de Dieu et de l'apprécier, de louer Dieu, mais la Bible nous instruit que nous devons glorifier Dieu, Ça change un peu le teneur de cette phrase, mais nous devons honorer Dieu et nous devons multiplier l'honneur de Dieu dans nos vies, comme nous avons déjà considéré. Ce que nous faisons avec ce trésor permet à Dieu d'œuvrer à travers nous. Nous reconnaissons la gloire de Dieu et ce que nous faisons, ce que nous proclamons, multiplie la gloire de Dieu dans la vie des autres. Est-ce que c'est notre intérêt de ne pas juste garder toutes ces gloires pour nous, mais partager les exemples, le témoignage de la gloire de Dieu, la vérité dans la vie des autres? Des fois, quand on passe par les épreuves et quand on peut-être on est à l'hôpital, je l'entends souvent avec les banques, toutes les infirmières, tous les médecins, les banques, les gens se questionnent qu'est-ce qui fait que cette personne réagit comme ça. Il n'est pas comme les autres, cette personne. Cette personne est différente. Et des fois, même Madame Berlin, qui vient de décéder il y a pas longtemps, à la fin de sa vie, elle a passé beaucoup de semaines dans l'hôpital, et toutes les infirmières se sont regroupées autour d'elle, et quand elle est partie de l'hôpital pour aller au centre de soins palliatifs, les gens se mettaient dans un couloir, toute l'équipe se mettait dans le couloir pour l'applaudir, pour le remercier de son attitude et de son exemple brillant. Et c'est une histoire que la famille a racontée lors des funérailles de Madame Berlin. Et c'est sa foi, c'est ça, c'est splendeur, c'est ça, cette gloire de Dieu qui avait brillé, à mon avis, dans la vie. Et peut-être les gens ne connaissaient pas l'origine de cette gloire, mais ils ont reconnu que quelque chose était différent par rapport à cette personne. Ils ont reconnu que cette personne et sa façon de réagir à un cancer terminal, de fin de vie, était tellement différent que les autres qu'ils observent souvent. C'est la gloire de Dieu. On devrait louer Dieu pour le fait que son exemple ait une influence sur ceux qui s'occupaient d'elle-même. Donc voilà, l'ancien Israël est décrit à de nombreuses reprises et à bien des égards comme eux, ils ne parvenaient pas à honorer le nom de Dieu. Ils ne glorifiaient pas Dieu dans leurs actions. Nous devons apprendre de ces fautes, de ces erreurs du passé pour mieux honorer Dieu et faire croître l'honneur, la gloire de Dieu dans ce que nous entreprenons. Le mot pour glorifier Dieu dans le grec, c'est similaire à doxa. C'est le mot doxazo. Doxazo. Ça veut dire rendre glorieux ou glorifier ou magnifier ou honorer. Donc, dans ce sens, ça ne s'arrête pas là. D'observer les étoiles et se dire, ah, la gloire de Dieu est magnifique. Dieu veut plus de nous comme ses disciples, comme les disciples de Jésus-Christ, comme les membres de l'Église, comme les prémices de Dieu. Nous devons transformer ce que Dieu nous révèle à travers ces choses en louange pour lui et en action, n'est-ce pas? Pour servir les autres, pour proclamer la vérité dans le monde entier, tout comme Jésus-Christ nous a ordonné de faire en Matthieu 28, 19. Et nous sommes capables de le faire parce que Dieu nous fortifie. Comme Paul nous mentionne, je puis tout. Car Jésus-Christ qui me fortifie. Donc, ce soutien que Dieu nous donne, ce réconfort et ces offres d'aide dans notre situation de péril, de crise, m'a amené à réfléchir profondément aux façons dont nous pouvons glorifier Dieu, magnifier, honorer, faire resplendir, rendre glorieux dans notre vie quotidienne. Et nous devrions nous occuper à le faire. Nous sommes toujours tellement reconnaissants lorsque Dieu pourvoit à nos besoins. Mais si nous tirons la bonne leçon d'ici, c'est que nous sommes devenus des instruments pour que Dieu se serve de nous, nos mains, nos pieds, nos paroles, nos langues, si vous voulez, pour subvenir aux besoins des autres. Et c'est une telle cette même chose de le faire. C'est quelque chose que dans l'Église, quand on voit ces choses arriver, ça nous rend joyeux. On est tellement joyeux de voir ces réactions, ces gens qui se portent envers les autres. Et dans l'un des commentaires, dans les dictionnaires bibliques, il y a des références dans les Écritures données. C'est une longue liste dont j'ai choisi quelques exemples de comment nous pouvons glorifier Dieu. Donc, je voudrais juste balayer la liste rapidement avec vous. Romains chapitre 4. Pour glorifier Dieu dans notre vie. Romains chapitre 4. Est-ce que c'est ça notre objectif? De ne pas simplement recevoir l'évidence de sa gloire, mais de faire en sorte que d'autres glorifient Dieu. Même s'ils ne connaissent pas notre Créateur de la même façon que nous. Romains 4, et le verset 20, nous donne un exemple de comment le faire. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que vous avez déjà rassuré quelqu'un qui était dans le trouble avec une phrase, peut-être même soumis à les Écritures, peut-être juste une phrase encourageante pour dire « Dieu va s'en occuper, reste calme, ça va passer. » Et quand vous le dites dans la foi, comme cela, dans la foi de Dieu en Christ, quand vous le dites, c'est comme si vous affirmez la promesse, la conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. On peut rassurer quelqu'un avec nos mots, avec ses affirmations, quand on s'appuie sur les promesses de Dieu. Ça, c'est un exemple fort, parce que nos actions, non? Quand on est dans une relation intime avec quelqu'un et quelqu'un nous demande de l'aide, de l'encouragement, nous devrions nous appuyer sur les promesses de Dieu pour encourager, tout comme nous avons récemment étudié dans 1 Thessaloniciens aussi, et c'est encourager les uns les autres avec ses paroles. Avec nos paroles, c'est une façon de glorifier Dieu, de faire en sorte que Dieu soit glorifié par les autres. On a un autre exemple dans Psaume 50, que je vous ai dit, on va aller la liste assez rapidement. Psaume 50 et le verset 23, c'est un autre exemple. Il y a bien plusieurs exemples comme celui-ci. Mais Psaume 50 et le verset 23. Et c'est intéressant, la voix qui dit ça. Verset 23, Psaume 50. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Donc, je crois que nous avons déjà mentionné, mais c'est vraiment quelque chose d'important à considérer. Nos actions de grâce, notre remerciement. Est-ce qu'il y a une coïncidence que cette semaine, c'était des actions de grâce aux États-Unis? Peut-être. Mais les actions de grâce, c'est plus que des mots. C'est aussi nos actions, ce que nous faisons les uns pour les autres. Mais offrir, c'est comme un sacrifice de la bouche, de l'esprit, qui glorifie Dieu. C'est intéressant. Nous glorifions Dieu dans ces choses. On va continuer un peu plus loin. 1 Pierre 4, la souffrance pour Christ. 1 Pierre 4, une autre façon de rendre gloire ou de glorifier, honorer, magnifier la gloire. Ce n'est pas notre gloire, encore une fois, c'est la gloire de Dieu. Chapitre 4, et le verset 14. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre qu'un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré, dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom et de ce nom. Le nom de Jésus-Christ. Donc, glorifier Dieu dans la souffrance au Christ. Encore un exemple. Jean chapitre 15. Nous pouvons glorifier Dieu en produisant des fruits de l'Esprit. Des fruits, des bénédictions que Dieu nous accorde, nous pouvons glorifier Dieu quand nous produisons des fruits avec. Souvent, quand nous sommes bénis, la prière à considérer, c'est à prier Dieu, montre-moi comment se servir de ces bénédictions pour te glorifier. C'est ça, une belle prière, c'est une demande de Dieu. C'est Père, montre-moi, tu m'as donné ça, tu m'as donné quelque chose, tu m'as donné une bénédiction. Montre-moi ta volonté pour comment l'utiliser, comment l'employer pour ta gloire, dans ce sens, pour glorifier ton nom. Si nous faisons ça comme réflexe à chaque fois que nous sommes bénis, je trouve que cette magnification, ça se passe beaucoup plus rapidement. Ça devient un réflexe. À chaque fois que nous sommes bénis, nous sommes reconnaissants et nous sommes quand même prêts pour l'action aussi. Nous sommes prêts pour agir avec ce que Dieu nous donne. Peut-être que c'est une ouverture, une opportunité, quelque chose qui change, une nouvelle relation dans la vie ou dans l'Église. C'est peut-être de l'argent, peut-être pas de l'argent, peut-être de la santé, peut-être quelque chose qui s'arrange pour nous dans une belle façon. C'est peut-être l'aide de quelqu'un. Comment est-ce que je peux me servir du fait que quelqu'un voudrait m'aider maintenant? Comment est-ce que je peux magnifier ton nom avec les bénédictions que tu m'accordes? Il y a belle des questions là-dessus. Donc, Jean 15, c'est tellement un joli passage ici où Jésus se déclare comme le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est une vraie image magnifique pour nous à considérer parce que ça veut dire que nous portons du fruit à cause du fait que Dieu a choisi à nous intégrer dans ce vigneron, dans ce vignoble. Nous sommes choisis, nous faisons partie de son vignoble. C'est son choix de nous intégrer, même de grafter là-dedans. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici, dans cette imagerie? Il nous explique que Jean, chapitre 15 et le verset 8, on peut remonter au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça rejoint ce que je disais tout de suite, c'est quand on est béni, on peut demander à Dieu. On peut demander à Dieu, montre-moi ce que je peux faire avec ces bénédictions. Ou on peut s'expliquer à Dieu, si je peux réussir dans ce que j'entreprends, je vais l'utiliser pour ta gloire. Donc verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Donc, il y a un double effet ici. Parce que, on peut se souvenir que dans Jean 17, Jésus a prié que lui, il fasse la volonté. Il a dit, j'ai fait ta volonté. J'ai fait ta volonté, Père. J'ai produit, si vous voulez, pour dire ça dans une autre façon. J'ai produit ce que tu m'as demandé de produire. On peut vraiment dire que la vie de Jésus-Christ était fructive. Verset 8, c'est « Si vous, c'est nous, portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. » C'est ça l'exemple parfait ici. C'est que nous ne cherchons pas la gloire pour nous-mêmes dans cette vie physique. Nous cherchons à magnifier la gloire de Dieu qui nous a appelés, qui s'est révélé à nous. Donc, nous avons aussi la possibilité de glorifier Dieu dans la patience et dans l'affection. Si nous considérons un exemple de l'Ancien Testament, Ésaïe 24, Ésaïe 24, et le verset 15. On peut commencer au verset 14. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Donc ce sont les personnes qui souffrent ici. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Verset 15. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillages s'acharnent au pillage. La terreur, ma fosse et le filet sont sur toi, habitants du pays. Donc, malgré cette souffrance, malgré cette patience dans l'affliction, nous déclarons la gloire de Dieu. Nous venons de voir aussi dans 1 Pierre, on va remonter à 1 Pierre de nouveau, dans la fidélité envers Dieu, nous glorifions Dieu. Dans notre fidélité envers Dieu. 1 Pierre, chapitre 4 de nouveau. Dans la fidélité. Dieu est toujours fidèle. Il attend de nous une fidélité aussi. Commençons avec le verset 10. 1 Pierre 4 et le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est une bonne façon de le dire. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si on remplit dans une fidélité, nous cherchons à mettre au service. Si Dieu nous donne un don, si nous l'employons de sa façon, nous sommes fidèles à la volonté de Dieu. Souvenez-vous du serviteur qui n'était pas fidèle, qui a enterré son talent. Qu'est-ce que le maître l'a dit quand il est revenu? Il a dit que ce serviteur n'était pas fidèle. Ce serviteur n'allait pas glorifier Dieu par la multiplication du talent qu'il a reçu. Il était infidèle parce qu'il n'a pas fait ce que le maître attendait de lui. Donc, pour résumer cette liste, je crois que tous ces points que j'ai balayés rapidement impliquent l'idée de mettre notre foi en action. Les œuvres de la foi, c'est une phrase que j'aime. Les œuvres de la foi. Lorsque d'autres sont bénis par eux, ces œuvres que nous accomplissons avec l'aide de Dieu, ou lorsque ces personnes peuvent même observer de loin les œuvres de la foi, cela glorifie Dieu. Alors on peut se demander qui travaille réellement lorsque nous tendons la main pour aider les autres. Est-ce que c'est la personne qui prend la décision d'offrir son aide d'une manière ou d'une l'autre, oui, c'est vrai, on prend une décision. Lorsque cette personne est guidée par l'Esprit de Dieu, cela peut produire de très beaux résultats. Quand nous tendons la main à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est se servir de ce que Dieu nous donne pour glorifier Dieu. Que nous le sachions ou non, nous sommes constamment du côté de ceux qui bénéficient des bénédictions de Dieu. Des fois, on est conscient des bénédictions que Dieu nous accorde, mais des fois, il nous donne des bénédictions lesquelles nous ne sommes pas conscients. Mais Dieu intervient pour nous de toutes sortes de manières, dans les bons moments et dans les moments difficiles. Donc, nous sommes toujours en besoin de remercier Dieu pour les nombreuses façons qu'il intervient dans notre vie. Donc, nous espérons que le sermon aujourd'hui nous rappellera à tous l'amour et l'attention que Dieu porte à chacun d'entre nous et le fait qu'il voudrait qu'on multiplie cet amour, cette attention, ce soin les uns pour les autres, chaque jour. Pour revenir à cette histoire personnelle concernant l'intervention de Dieu pour mon fils, je suis encore étonné par la multitude d'individus que Dieu a utilisés pour nous aider, notre famille, à travers cette crise. Encore une fois, c'était des étrangers, des personnes inconnues, des infirmières, des médecins, des agents de sécurité, même des chauffeurs de taxi, des personnes que nous avons rencontrées dans le tube, dans le métro, qui nous ont indiqué quel métro à prendre pour y arriver plus vite à notre destination, des toutes petites choses comme ça qui se sont produites. Il y avait ma famille, mes parents qui ont pu s'en occuper de nos filles. Les parents de Mme Harper aussi ont aidé à transmettre les nouvelles. Les frères de l'Église, encore une fois, beaucoup de bonnes choses qu'ils ont fait pour nous et pour nos enfants. Le ministère, M. Franks, a même donné une mise à jour sur le à propos et a demandé prière pour tout le monde. Et puis, M. Hawkins, en Angleterre, au Royaume-Uni, lui, il a demandé, il nous a aidé pendant notre séjour à Londres. M. Vicker a donné les nouvelles aux frères et sœurs francophones. Et puis, vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues à notre secours. Est-ce que je peux dire simplement que, ces choses sont passées comme ça et c'est par hasard que tout ça s'est passé? Non, je dois glorifier Dieu pour dire, c'est Dieu qui est intervenu pour nous. Par sa force, par la paix qu'il nous a donnée, la paix d'esprit, la patience qu'il nous a donnée d'attendre sans vraiment savoir combien de jours, qu'est-ce qui allait se produire. La patience, vraiment un don de Dieu qui nous a beaucoup aidé à passer par cette épreuve. Donc, en observant, en étant celui qui a reçu toutes ces choses, je me demandais, et je me demande toujours, est-ce que je peux devenir quelqu'un qui serait une avenue ou un conduit pour rendre service aux autres? Nous pouvons faire de notre mieux pour remercier Dieu dans la prière et pour remercier sincèrement ceux qui nous aident, mais ce n'est pas tout simplement ça notre responsabilité, c'est aussi d'agir sur tout ce que Dieu nous donne. En amour pour notre prochain, nous savons tous, nous connaissons l'histoire du bon samaritain. Du bon samaritain, alors que les autres, au passé, n'avaient pas le temps de s'en occuper de cette personne qui est tombée, qui avait été violée ou agressée par des voleurs. Les autres n'avaient pas le temps, mais le bon samaritain avait le temps. Il a pris le temps de soigner la personne, de s'occuper de ses besoins. Et puis la personne, dans l'histoire de tout ça, dans Luc chapitre 10, a demandé, celui qui a demandé tout ça, il a dit, « Alors qui est mon voisin ?» C'est pour ça que Jésus-Christ a expliqué. On peut se demander, qui est notre voisin? Qui est celui? Qui est notre proche? Qui est notre voisin? À qui est-ce que je peux rendre service aujourd'hui? Je sais qu'il y en a d'entre vous qui le font déjà, et vous méritez beaucoup de remerciements. Et vous ne le faites pas pour votre gloire vous-même, vous le faites pour la gloire de Dieu. Et cette attitude qui s'exprime sous forme d'action de grâce, d'action des œuvres pour Dieu, de grâce, pour glorifier Dieu, en fait, ça multiplie la gloire de Dieu. C'est une attitude qui ressemble à Philippiens 2. Philippiens 2, quand nous nous entreprenons, quand nous nous engageons à servir Dieu, c'est pas pour notre propre gloire. C'est une attitude d'humilité, de remerciement, parce que nous, nous avons déjà reçu beaucoup plus que nous pourrions donner. C'est ça qui nous donne toujours cette attitude d'humilité, c'est de savoir que nous sommes ceux qui reçoivent. C'est Dieu qui nous a donné cet appel, tout ce que nous avons, il nous a donné. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est une attitude, c'est un réflexe, c'est quelque chose que Dieu demande de nous pour refléter sa gloire. Lorsque on reflète, on imite, on apprend à faire comme notre parfait exemple, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que nous sommes des fois l'étranger? Est-ce que nous sommes des fois le frère en Jésus-Christ qui s'occupe de nos frères et sœurs dans l'Église? Est-ce que nous sommes des fois le membre de la famille alors que tout le monde est occupé, mais c'est nous qui décidons? Moi, je vais prendre le temps de rendre service à un membre de ma famille qui est dans le besoin. Est-ce que ça, c'est nous, la voie par laquelle Dieu travaille pour magnifier sa gloire? Si nous considérons les résultats qui suivent, le fruit qui se produit, ça devient très motivant, n'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas en nous. Ça se produit, s'enchaîne. Ces choses. Soyons conscients de ces choses, frères et sœurs. L'impact de notre rôle à aider ceux qui en ont besoin. En faisant ça, nous pouvons être un membre de l'Église qui est là pour les autres, qui est là pour aider, qui est là pour rendre service, pour magnifier la gloire de Dieu. Ces choses apportent la gloire non pas à nous, mais à Dieu. Alors nous pouvons nous encourager en disant ces exemples de comment Dieu se révèle à nous. Et lorsque c'est nous qui sommes dans l'épreuve, nous pouvons nous rappeler que Dieu est là, que Dieu ne nous a pas abandonnés et que lui, il s'occupe de nous. Il suffit des fois de simplement ouvrir les yeux pour voir jusqu'à quel point Dieu nous aide dans nos besoins. N'oublions pas que Dieu révèle, que c'est lui qui est glorieux, c'est lui qui a la gloire. Il produit la gloire en nous, il a donné un trésor, la connaissance, la lumière, l'exemple, la gloire en développement. À nous de refléter, à nous d'imiter et à magnifier la gloire.